Jean-Marie Félix.
Entre les lignes avec Catherine Fatbert, je reçois Jérémy Gindre, auteur de 5 nouvelles fraîchement parues à l'Olivier. Son titre, On a eu du mal. Bonjour, soyez les bienvenus. Nous recevons aujourd'hui dans nos interlignes un artiste qui explore volontiers des territoires multiples. Il a aiguisé son regard à ce qui allait devenir la Haute École d'Art et de Design de Genève, dont il est sorti au début des années 2000. En tant que plasticien, il a conçu de nombreuses expositions en Suisse comme à l'étranger, en diversifiant toujours les techniques d'expression. Dans le domaine des mots plus particulièrement, il prononce volontiers des conférences dont certaines peuvent prendre des allures de performance. Et sur le papier, il a publié plusieurs ouvrages, là aussi multiples dans leur forme, livres illustrés, livres d'artistes, essais, monographies, poèmes, nouvelles, romans. Vous l'aurez compris, Jérémy Gindre passe d'un genre à l'autre en cultivant avec bonheur l'art d'expérimenter. Eh bien, l'expérimentation, justement, est au cœur des 5 nouvelles qu'il publie aux éditions de l'Olivier, réunies sous le titre « On a eu du mal ». Peut-être faut-il le dire avec l'accent, d'ailleurs. 5 textes inspirés par l'observation scientifique des émotions humaines que permettent les neurosciences. Bonjour Jérémy Gindre.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir pour la première fois à la table de lecture de Entre les lignes.
Merci.
En consultant votre parcours artistique, on est assez impressionné, du moins j'ai été impressionné par le nombre de travaux que vous avez réalisé et surtout par la diversité des approches. Alors, est-ce qu'il y a chez vous une volonté absolue de ne pas vous laisser enfermer dans une forme ou l'autre d'expression?
Est-ce que c'est une volonté? C'est simplement un souhait de rester dynamique en fait dans sa production et de changer de sujet quand il ne m'intéresse plus, simplement.
Changer de sujet est une chose, mais changer de technique en est une autre.
Oui, alors changer de technique, c'est plus trouver la technique qui est appropriée au sujet qui a été choisi.
Le désir d'écrire, comment est-il apparu dans votre cheminement personnel d'artiste?
Alors, je ne m'en souviens plus.
Alors, je ne vous demande pas de revenir à la petite enfance. Peut-être plus récemment quand même, vous avez quoi, 35 ans aujourd'hui?
Oui, en fait, si je dis que je m'en souviens plus, c'est qu'il n'est pas apparu en fait. Il a toujours été là, c'est des choses qui ont toujours fonctionné de concert en fait. L'écriture et les choses plus orientées exposition, il y a toujours eu en fait des textes dans mes travaux, même les premiers quand j'étais aux Beaux-Arts, que ce soit écrire des dialogues pour des petits films ou des sous-titres pour des images, des choses comme ça. J'ai toujours en fait eu besoin d'avoir un recours à la narration en fait pour augmenter les œuvres.
C'est aux Beaux-Arts aussi, ce qui s'appelait à l'époque les Beaux-Arts, que vous êtes aussi familiarisé avec le domaine de l'écriture?
Oui, alors il y avait en fait, c'était les tout débuts de l'atelier d'écriture des Beaux-Arts de Genève qui était enseigné par Hervé Laurent et qui a été longuement développé par la suite et qui est un atelier qui prend une importance toujours plus considérable aujourd'hui.
Et aujourd'hui, quelle place tient l'écriture dans votre vie?
Une grosse place. Oui, en fait, maintenant c'est devenu quelque chose. Enfin, j'ai fini par comprendre que c'était indispensable aux œuvres, donc ça prend pratiquement toute la place. L'écriture de fiction occupe une grande partie, mais maintenant, quand je conçois des expositions ou des œuvres, une série de dessins, une série de sculptures, je mets rarement en fait l'écriture de côté. Elles sont toujours là pour soutenir le reste.
Oui, jusque-là, l'écriture était souvent liée à des expositions, à des performances, à des installations, à des livres d'artistes aussi, mais toujours en rapport avec le visuel. C'est une des premières fois aujourd'hui que vous publiez dans une maison d'édition, notamment française, 5 nouvelles strictement littéraires.
Alors c'est vrai que ça a longtemps été l'écriture a longtemps été une béquille pour les œuvres ou les œuvres une béquille pour l'écriture et puis en 2006-2007 en fait un petit éditeur qui s'appelle les éditions Dasein m'ont proposé de lâcher cette béquille et d'écrire directement un roman qui ne s'appuierait sur aucun contexte artistique et je l'ai fait très volontiers puis j'ai vu que ça marchait, donc je pouvais marcher de mes deux pieds sans béquille. Et depuis, c'est en fait des activités qui se chevauchent. En fait, il y a des périodes où j'écris plus, d'autres où je travaille plus sur les expositions. Mais voilà, c'est simplement une organisation du temps et d'envie qui varie.
Alors du roman, donc la formule longue, vous êtes passé à des formules plus courtes. La nouvelle, il faut dire d'emblée, je crois, Jérémy Gindre, que ces 5 nouvelles ont été écrites à l'issue d'une résidence dans 2 centres scientifiques. Et c'est là que réside justement la base, le fondement de votre projet littéraire.
Oui, alors c'était un projet littéraire qui a en effet été initié par une bourse de recherche d'un programme suisse qui s'appelle Artist in Labs, qui est un programme des Beaux-Arts de Zurich, qui propose de placer 4 artistes en résidence dans 4 laboratoires scientifiques différents. Quand je dis différents, c'est très différent. Il y a déjà un laboratoire de robotique, des choses orientées plutôt avalanche. Le mien, c'était... les miens, puisque c'était une espèce de couple de laboratoires, le centre interfacultaire en sciences affectives et le centre interfacultaire en neurosciences de l'Université de Genève, qui m'ont accueilli justement pendant 9 mois. Avec comme projet, sur le papier, mon projet, c'était de faire une adaptation, ou des adaptations sous forme de fiction, d'un certain nombre de leurs recherches, de leurs sujets passés ou présents. Et le résultat, c'est à peu près ce que j'avais noté sur le papier.
Eh bien, le résultat, on va en parler aujourd'hui. On va parcourir ce livre avec quelqu'un qui n'a eu aucun mal à vous lire. C'est Catherine Fadbert. Bonjour, Catherine.
Bonjour. C'est vrai qu'on a peu de mal à vous lire. Il faut dire ce qu'il est. Hein. Même si le titre « On a eu du mal » pourrait nous enclindre à ne pas plonger dans votre récit. La particularité de votre écriture, Jérémy Gindre, c'est peut-être une fluidité, c'est cette entrée immédiate, quasi instantanée dans les univers que vous nous décrivez. Et c'est peut-être dû, effectivement, à votre travail sur les émotions, dans ces résidences. Reste que On a eu du mal, c'est un recueil de nouvelles qu'on lit avec passion, en récoltant des bribes d'univers à chaque mot que vous employez. Des nouvelles avec à chaque fois un héros ou un anti-héros, c'est comme vous voulez. En tout cas, un personnage principal très très proche de nous, confronté à ses émotions et à ce que le 4e de couverture nous présente comme extra quotidien. Alors vous nous expliquerez beaucoup plus tard dans l'émission à quoi ça correspond. Reste que nous vous suivons avec beaucoup d'attention et avec tendresse, notamment les aventures de Paul. Paul, par exemple, qui est parti camper avec ses parents, des parents qui lui font honte. Tout ça parce qu'ils sont très attachés au camping traditionnel. Chez eux, il n'y a pas de camping-car high-tech. Il y a des livres, il y a un feu de bois et il y a une tente. Et le voilà également contraint de visiter une improbable capitale des dinosaures et son parc d'attractions à thème. Il doit également assister le pauvre à une passion du Christ en plein air. C'est sa mère qui est contente. Mélanie Gilliot, elle est l'héroïne de la 2e nouvelle. Elle est victime d'une collectionnite aiguë. Elle amasse les sensations fortes, comme elle amasse aussi les objets de toutes sortes et les pensées. La voici à la tête de la plus belle collection de pives jamais recensée. François, lui, est pris dans une avalanche. Il est coincé dans son rat-trac, il est prisonnier de son anorak et de ses pensées également. Claude, lui, est victime de son corps, d'une attaque plus précisément, et d'un esprit de moins en moins aiguisé que nous suivons le temps d'un jogging ou d'un footing, comme vous préférez, d'une foulée relativement peu assurée. Quant à Sven, dernier protagoniste de toutes ces histoires, il sert de cobaye à des expérimentations psychologiques et psychocognitives. Il a fait peut-être comme vous, Jérémy, cobaye humain dans un hôtel de luxe quand une fin d'été étire ses brumes sur les vignes alentour avec des oiseaux qui crient et qui chantent. Bref, ce qu'on peut dire de vos nouvelles, c'est que vous arrivez à nous emmener, rencontrer et remonter tout le temps en strates. Strates qui apparaissent également dans la construction de nos êtres et des êtres qui peuplent ces histoires. Des histoires qui renvoient systématiquement à nos vécus. Ça peut être des vacances avec nos parents, ça peut être les collections qu'on faisait tous quand on était enfant, nos anoraks, plus ou moins chaud, la nature. Les singularités de la vie sont exposées en mots, dans des caisses passées au blanc d'Espagne, avec un petit spot pour mieux les éclairer. C'est ce que fait notre auteur aussi, dans les musées. Bref, ce sont des nouvelles, telles une muséographie littéraire des états d'âme. Et je m'arrête là. Je vous propose plutôt que nous partions directement dans la fiction, 5 nouvelles, 5 portes d'entrée dans l'univers de notre auteur du jour. La première a pour titre « Variété des passions ». Paul part avec ses parents. C'est l'été. Ils partent de la banlieue, de Regina. Ils vont traverser le Saskatchewan au bord d'une Mercury Grand Marquis. Ils vont à Drumheller, c'est la capitale mondiale des dinosaures.
Le comédien Cédric Simon va nous donner ce texte en lecture.
Bientôt, ils arrivent à destination. En lui-même, le camping de Drumheller n'a pas de charme particulier, mais il est très bien situé. Entre la rivière et le versant sud du canyon, à 2 pas du centre-ville, on y trouve les éléments typiques d'un camping de la prairie. éternel peuplier, pelouse, aire de jeu, cabane à bûches, singularité qui tend à se généraliser, il propose 4 tipis aménagés pour les séjours romantiques. Chaque emplacement locatif est équipé d'un monobloc table-banc et d'un barbecue individuel en fonte encastré dans le sol. La famille est vite installée parce qu'elle a l'habitude. Les tentes sont montées, les fauteuils relax dépliés, les matelas gonflés, les affaires réparties. Le coffre de la grand-marquis contient les ustensiles de cuisine, la pharmacie et la glacière. La tente parentale sert également de garde-robe, tandis que Paul dispose de son intimité dans la monoplace. Maintenant, le père prend une douche dans le baraquement des sanitaires. Pendant ce temps, la mère fait des sandwichs et Paul pioche dans un grand paquet de chips ondulés, coupe épaisse, à saveur de cornichons mordants et de crème aigre. La capuche de son pull rabattue sur la tête, il s'hypnotise dans les flammes du feu qu'il a allumé tout seul. Dans ce vallon encaissé, le soleil se couche plus tôt qu'ailleurs. Mais il fait encore clair quand toute la famille va se coucher. C'est le privilège estival des régions boréales. Isolé dans sa tente, Paul retrouve son sac de couchage aux imprimés Spider-Man, bientôt trop petit. Il joue encore un moment à un jeu de course automobile sur son téléphone avant de l'éteindre et de le ranger dans la poche latérale en filet, avec la lampe de poche et les boules qui yes. Par expérience, il sait que les oiseaux chantent fort et tôt le matin, que certains campeurs arrivent tard ou rentrent ivres, et que l'application Dream On du téléphone de sa mère a le don de le réveiller au milieu de la nuit. Depuis qu'elle a découvert ce programme conçu pour orienter le cours des rêves, elle ne peut plus s'en passer. Aussitôt que l'appareil estime que la phase de sommeil lent est atteinte, une bande son se met en route. Après avoir testé compulsivement plusieurs thèmes, dont la route des Indes, Far West et Deep Space, sa mère avait durablement fixé son choix sur le classique Ocean View. L'été passé, au camping de Spruce Coulee, Paul était systématiquement réveillé par le cri d'une mouette ou le splash des dauphins provenant de la tente parentale. C'était la honte. À la maison, d'accord. Mais comment pouvait-on écouter le déferlement des vagues en dormant dans les collines? Selon elle, c'était une question d'habitude. Chaque nuit, il lui fallait sa dose marine. Elle estimait qu'en vivant en plein milieu d'un continent, éloigné des bienfaits de l'océan par des milliers de kilomètres de chaque côté, ses rêves avaient quelque chose de salutaire.
Avec une telle plage musicale dans les oreilles, la mère de Paul est sans doute capable de plonger chaque nuit dans un bien-être délicieusement aquatique à queue. Lu par Cédric Simon, c'était un passage tiré de la première nouvelle qu'on trouve dans le recueil de Jérémy Gindre. Elle est intitulée « Variété des passions », un titre un peu énigmatique qu'on peut entendre de différentes façons, Catherine.
Bah surtout que cette variété des passions a une signification particulière. Pour vous, Jérémy Gindre, c'est aussi une œuvre d'art. Expliquez-nous.
Ah, alors c'est là que les choses se compliquent en effet, parce que Variété des passions, c'est une nouvelle, mais c'est aussi une exposition qui a eu lieu, organisée par le MAMCO, hors les murs, à l'Institut Florimond, où on m'a proposé en fait de revisiter les vitrines du musée de l'Institut Florimond en piochant dans la collection du musée, qui est essentiellement une collection d'histoire naturelle, et en piochant dans la collection du MAMCO, et en piochant aussi dans le stock de mon atelier. Donc voilà, ça c'était l'été passé. À ce moment-là, je partais aussi en résidence justement dans le Saskatchewan, dans la maison d'enfance de Wallace Stegner, un écrivain formidable de l'Ouest américain. Et voilà, donc arrivé là-bas, je me suis mis à écrire cette nouvelle qui était censée servir de trame à l'exposition. Et en plus, justement, encore imprégné de cette résidence avec les scientifiques que j'avais côtoyés pendant une année. Donc ça, c'est un exemple typique du télescopage de toutes les différentes activités que je peux avoir.
Télescopage que vous avez également pratiqué à l'intérieur de ces caisses. Vous avez mis des caisses dans lesquelles vous avez projeté énormément de choses, c'est-à-dire vous avez entassé des objets hétéroclites. La passion, là-dedans, elle correspond à quoi ?
Alors là, ça va être difficile d'expliquer sans faire de grands gestes et de renverser mon micro. Mais pour l'exposition dans les vitrines de l'Institut Florimond, j'ai recréé des salles, comme des maquettes de salles de musée qu'on pouvait observer à travers des petites lucarnes. Et dans chacune de ces salles, donc, il y avait étaient réunis des objets de la collection de l'Institut Florimond, de la collection du MAMCO et de mon propre travail. Avec justement cette idée d'essayer de se faire rencontrer ces trois univers autour de thèmes qui étaient des espèces de thèmes aussi issus de passion. Donc il y avait des salles avec des espèces de thématiques différentes qui correspondaient en fait à des épisodes de cette nouvelle. Ce qui fait que le visiteur qui aurait lu la nouvelle, ou qu'il aurait entendu, puisqu'on l'a lu deux fois dans l'exposition, aurait eu des espèces de flashbacks de sa lecture, ou au contraire, en lisant la nouvelle après, aurait eu des flashbacks de l'exposition en la visitant.
Le terme passion, il faut l'entendre comme un amour grandissant, énorme pour quelque chose. C'est pas la passion religieuse qui, elle, porte une dimension mortelle, peut-être.
Alors, il y a les deux, puisque voilà, on parle de variété des passions, et dans la nouvelle, on a ça, on a des gens qui sont passionné par des collections, par des sujets divers, par une forme d'ésotérisme. Et puis, il y a cette passion du Christ qui est rejouée dans les Badlands canadiens. Et puis, dans l'exposition en particulier, elle était mise en relation en fait, avec l'Institut Florimond lui-même et la tranche d'âge pour laquelle était conçue cette exposition au départ, puisque voilà, l'enfance et l'adolescence, typiquement, c'est des périodes où les passions changent de jour en jour et d'heure en heure. Un jour, on veut être cosmonaute, le lendemain, patineur, le jour d'après, aviateur, éventuellement.
Catherine.
La passion pour les chips, la passion pour les applications de téléphone pour orienter les rêves. C'est vrai qu'elles sont multiples, les passions, au sein de cette nouvelle. Mais il n'y a pas que ça dans cette nouvelle de variété des passions. Il y a aussi tout votre amour, Jérémy Gindre, pour la géologie, pour toutes les strates qui composent notre univers, notre Terre. Cet amour peut-être pour les dinosaures. Vous collectionniez les dinosaures quand vous étiez enfant ?
Non, j'ai eu la dinomania habituelle, mais pas...
Plutôt les cailloux.
Les cailloux, c'est venu beaucoup plus tard. C'est venu en fait en 2006 au cours d'une espèce de...
Vous étiez déjà un grand garçon.
J'étais déjà un grand garçon au cours d'un moment où voilà tout à coup l'intérêt que je pouvais avoir pour ce que je fabriquais pour les expositions était un peu en train de s'éteindre. Je savais plus très bien ce que je faisais et puis je suis revenu aux amours faciles que sont la promenade et les marches dans le paysage, et avec tout à coup une volonté d'essayer de le comprendre. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la géologie. Et c'est quelque chose qui a évidemment énormément compté, non seulement dans les expositions, mais aussi dans la, je pense le comprendre à peu près maintenant, dans l'écriture, parce que la notion de strate est vraiment, les strates géologiques, c'est une métaphore à tout faire, on peut l'utiliser pour tout, et elle est très pratique pour concevoir un récit, comme ça on revient en arrière dans le temps, on affleure, on disparaît.
Elle est pratique aussi pour l'exploration de la psyché ?
Sûrement.
Il laisse flotter trois petits points de suspension.
J'attendais un développement, il n'y en a pas eu.
Il n'y en a pas.
Catherine.
En effet, poétique aussi qui naît de cette accumulation de strates, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser en poésie, que vous faites également, cette accumulation.
Alors, je ne sais pas si j'oserais parler de poésie, mais c'est vrai que dans la géologie, pour moi, il y a vraiment ce truc fascinant d'une science dure et à la fois d'une science d'une immense poésie, puisque on essaie de comprendre sa formation du paysage, ça nous initie à cette compréhension du temps qui est assez folle en fait, de revenir des millénaires et des ères en arrière pour retrouver les choses. Et c'est une espèce d'ivresse, comme ça, à laquelle on arrive à toucher par le biais d'une science dure.
Science dure ou science molle, il y a peut-être une science plus molle dans une autre de vos nouvelles, c'est la collectionnite aiguë, celle de Mélanie Gillot.
Eh bien, si on entrait dans la psyché, justement, la psyché complexe de Mélanie, on va entendre un passage de cette nouvelle intitulée « Et tout cassé », Catherine.
Au début de l'histoire, Mélanie Gillot, elle ne collectionne encore pas l'épive, mais ça ne saurait tarder, puisqu'elle va être gagnée par sa passion. Elle débute progressivement cette passion, elle commence par imiter les gens, elle commence par prendre un chien qu'elle ne garde pas, elle entre dans un conteneur à habits pour s'y changer. D'ailleurs, ce passage est d'une drôlerie folle. Ouais. Je glousse moi-même. Donc elle ne sait pas trop elle-même où elle va.
Une autre fois, Mélanie Gillot a un accident de voiture au cours duquel elle se casse la jambe. Tous les torts sont de son côté parce qu'elle a dépassé un camion poubelle en ville sans mettre son clignotant et qu'en plus, elle conduisait pieds nus. Sa mobilité réduite l'amène à regarder beaucoup la télévision, où elle voit une grande quantité de publicités. Certaines ont tendance à l'énerver exagérément, notamment une pour de la bière pour femmes. D'autres la captivent au-delà de toute critique. Ce sont celles pour des voitures. La sienne n'a pas été trop abîmée par l'accident, mais elle se persuade qu'il lui en faudrait une nouvelle. Ses pensées reviennent fréquemment à cette idée. Chaque voiture qui passe dans la rue est un stimulus, ça devient pénible. Elle est obligée de prendre ses cannes pour aller fermer la fenêtre ou pour se distraire. Quand on la regarde faire, on se dit qu'elle s'agite beaucoup, pour pas grand-chose. Elle parle souvent toute seule. De retour dans son lit, elle feuillette longuement des catalogues commandés chez divers concessionnaires de la région et consulte intégralement des sites de marques connues sur Internet. Mélanie Gillot passe sa convalescence à rêver de carrosseries brillantes dominant des pistes sales, de virages enneigés conquis sous les jantes alues. Le flux de ses pensées s'accélère. Des fois, elle va jusqu'à serrer des deux mains un volant imaginaire. Elle pense qu'il lui faut un 4x4. Les quatre roues doivent être motrices pour maîtriser le terrain. S'il y en a deux qui tirent et deux qui suivent, il y a une perte. Il faut maîtriser le terrain, coûte que coûte. Sa voiture actuelle ne sert à rien, elle est usée. C'était celle de ses parents qui l'ont changée pour une neuve, parce que les performances de celle-ci avaient faibli. Elle n'est plus bonne. Dans sa situation financière actuelle, cette dépense est totalement inconsidérée. Heureusement, les parents de Mélanie Gillot ont pas mal d'argent et lui avancent la somme de bon cœur. Comme elle ne montre aucune intention de les rembourser, ils envisagent ce geste comme un coup de pouce au nouveau départ que leur fille semble prendre. Eux-mêmes ont choisi un gros modèle pour des questions de sécurité. Mais ce que Mélanie Gillot a choisi n'est pas un de ces SUV de citadins, tout rond, avec accoudoir en cuir, GPS, système d'assistance au parking intelligent et porte-mug. Il s'agit d'un modèle réputé efficace, choisi par les agriculteurs ou les bûcherons.
Très bien. Thank you. Cette mélodie sinueuse, légèrement hypnotique, construite sur la répétition, est à l'origine une œuvre de Philip Glass. Elle est remixée là par les soins d'un autre musicien américain, beaucoup plus jeune lui, nommé Peter Broderick. Et cela pour donner une résonance à la prose de Jérémy Gindre, notre invité entre les lignes aujourd'hui sur Espace 2. Jérémy Gindre est l'auteur d'un recueil de 5 nouvelles fraîchement parues aux éditions de l'Olivier. Son titre générique « On a eu du mal ». Texte issu d'une résidence au sein de 2 centres scientifiques où on étudie les sciences affectives, les neurosciences. Il s'agit donc d'une transposition littéraire de faits observés sous l'angle très scientifique. Alors tout à l'heure, par la voix de Cédric Simon, on entendait un passage de la nouvelle intitulée « Et tout cassé ». Sa protagoniste se nomme Mélanie. Outre son obsession pour les voitures, elle a une curieuse tendance à accumuler les pives pour constituer une collection très personnelle. Alors on va essayer, Jérémy Gindre, si vous le voulez bien, de suivre votre processus d'écriture. Quel type d'expérience scientifique a donné lieu à cette nouvelle, à cette transposition dans la fiction ?
Alors pour chacune des nouvelles, c'était assez différent. Celle-ci, c'est un assez bon cas d'étude parce que la nouvelle existait depuis longtemps. C'est une des premières nouvelles que j'ai écrites. En fait, je l'ai réécrite après, ou plutôt pendant la résidence, puisque en fait, plusieurs cas qui étaient étudiés, en particulier des cas plutôt de sociopathes ou de gens qui ont justement des idées récurrentes comme ça, qui ruminent. On parle beaucoup de rumination. Tout à coup, je me suis rendu compte en fait que ça correspondait exactement à ce personnage et que du coup, j'avais l'occasion de réécrire cette nouvelle avec des notions beaucoup plus précises et en fait d'affiner le personnage. Alors ça, c'est un des cas, assez littéral où vraiment cette expérience m'a permis d'améliorer. Le type d'un personnage, des fois c'est plutôt pour des situations, dans une des nouvelles ça donne carrément le cadre, mais pour le cas de Mélanie Gilliot, c'est bien de répéter son nom, parce qu'en fait dans la nouvelle elle est toujours appelée par son prénom et son nom, ce qui fait partie d'une espèce de litanie comme ça, et qui fait partie aussi de cette ambiance où on a l'impression que Mélanie Gilliot ne fait que enfoncer des clous et réenfoncer les mêmes clous, et ça c'est justement avec la résidence que j'ai pu mettre le point, affiner des choses sur ses comportements pour lui donner une plus grande cohérence et pour améliorer en fait des passages aussi, simplement des actions qui étaient typiques de ce genre de comportement.
Catherine ?
Pourquoi les pives ?
Alors pourquoi les pives ? Parce que c'est un objet qui ne se prête pas vraiment à la collection et ça montre un peu la déviance de sa collectionniste, parce qu'évidemment quand on commence à collectionner des pives, où est-ce qu'on s'arrête et pourquoi, et c'est aussi vraiment un prétexte, parce que il est annoncé au début de la nouvelle qu'on va nous parler de cette collection de pives, et ensuite on n'en parle plus jusqu'aux dernières lignes, et c'est une façon justement de... C'est vraiment littéralement un prétexte à suivre ce personnage jusqu'à cet aboutissement qui est cette collection de pives, mais dont on n'en apprendra pas grand-chose.
Pour la toute petite histoire, vous faites une distinction entre les pives et les pommes de pin.
Ah, mais bien sûr, la pomme de pin est le fruit du pin et la pive est le fruit du sapin.
Donc Mélanie ne s'y trompe pas.
Ah non, Mélanie est experte en pives.
Alors on est allé regarder avant sur Internet et la pive, c'est aussi pour les pins en Suisse.
C'est un localisme.
C'est un localisme, oui, alors c'est pas que Suisse, c'est partout où il y a des sapins.
Dieu sait s'il y en a en Suisse.
Ah, sur le Larousse, c'était pas ça, mais on a vraiment regardé, on s'est posé la question avec Jean-Marie tout à l'heure, on est allé jusqu'au bout. Donc les pives...
On a bossé, hein.
Faut pas croire. Les pives, finalement, c'est quelque chose qui raccroche à l'enfance énormément. Cette Mélanie Gilliot, elle aurait aussi pu collectionner les marrons. On va y arriver dans la saison des marrons. Enfant, tout le monde a récupéré des marrons dans ses poches, les a ramenés à la maison, tout le monde a récupéré des pives. Il y a pas mal d'enfance au sein de vos nouvelles, mais ça c'est sorti parce que vous êtes attaché à cette période-là de la vie et vous avez besoin, vous construisez avec ça, ou est-ce que c'est sorti effectivement dans vos artistes in labs ?
Alors l'enfance, non, c'est plutôt quelque chose qui est lié à la narration et à l'écriture. Je pense que évidemment les enfants font des très bons personnages et je pense que c'est important pour construire un personnage adulte aussi de revenir sur ces moments-là. Alors voilà, la pive a un précédent dans un passage de mon premier roman, Les formes du relief. Il y a aussi un personnage qui s'intéresse au fonctionnement d'ouverture et de fermeture des pommes de pin, cette fois. Et voilà, c'est une façon aussi de regarder très précisément un objet qu'on a perdu, dont on a pu avoir perdu le goût ou l'intérêt. Et voilà, tout à coup, se remettre à s'intéresser aux pives, pour moi, ça forme une bulle intéressante à explorer dans la vie de quelqu'un.
Il y a une grande part de nature au sein de vos histoires. Vous avez besoin, vous, de vous balader, de toucher les matières, de toucher le bois, la terre, justement de ramasser ces pives qui finalement sont très douces quand on les caresse dans le bon sens des écailles. Vous avez besoin de ça?
Alors, la promenade, pour moi, c'est vraiment quelque chose de déterminant dans le processus de création. Moi, je sais pas, c'est même peut-être trop d'utiliser des grands mots pour parler de la promenade. Je pense que c'est presque impensif. Maintenant, il y a énormément d'écrivains qui parlent justement de la marche et de l'importance de la marche dans l'écriture, dans le processus créatif. Moi, c'est évident, en fait. C'est un moment où les choses se mettent en place, où les idées se règlent entre elles et où on pense à des choses auxquelles on ne pense pas. C'est très lié, en fait, aussi au processus hypnotique dont il est beaucoup question dans les nouvelles. C'est un moment, voilà, où l'esprit s'égare et va se raccrocher à des choses, en fait, qu'on a laissées en plan, comme l'intérêt pour les pives, par exemple, et qui tout à coup ressurgissent comme des évidences.
Il y a Wallace Stegner, qui est ce romancier américain. Vous êtes allé faire une résidence chez lui. Grand écrivain écologiste. Sa prose vous parle et vous inspire aussi?
Oui, alors Wallace Stegner, moi, c'était vraiment une découverte importante. En fait, je connaissais déjà plusieurs des auteurs qui ont été considérés comme un peu ses fils après. Jim Harrison, Thomas McGuane et tout ce qu'on a qualifié comme l'école du Montana. Donc, des écrivains qui ancrent leur récit dans la nature et dans les espaces de l'Ouest surtout. Et puis à un moment, il y a eu la possibilité d'aller dans cette résidence qui est la maison d'enfance de Wallace Stegner et la possibilité d'aller voir sur place à quoi correspondaient ces paysages, en fait, que je m'étais tellement figuré et dans lesquels j'avais tellement ancré les personnages qui m'étaient chers. Mais c'est vrai qu'en effet, ce type d'écriture, pour moi, c'était un moment important pour simplement comprendre à quel point le paysage dans lequel évoluaient les personnages avait son importance.
On va laisser de côté Wallace Stegner, on va laisser aussi Mélanie à ses obsessions pour nous occuper maintenant d'un autre personnage qui est au centre d'une de vos nouvelles, Jérémy Gindre. Il s'appelle François. Et c'est un problème particulier que rencontre François, Catherine.
Forcément, il est coincé dans une avalanche, ça n'arrive pas tout le temps. Il est coincé dans une avalanche et il survit puisqu'il est coincé dans sa machine, dans son rat-trap, ce qui fait qu'il a de l'oxygène et il a quand même relativement chaud. Il attend les secours, il pense aux autres, il pense à lui, il essaye de faire le vide dans son esprit. C'est pas facile quand on est coincé dans la neige, qu'on connaît les dangers d'une avalanche. Alors on se focalise sur le quotidien, le tout petit quotidien. Et lui, il imagine en plus l'extérieur hors de la couche de neige.
Cédric Simon nous livre un extrait de cette nouvelle.
Le tube alimentaire à la caféine et à l'eucalyptus entre les doigts, François finit quand même par revenir à la situation. Il serait peut-être temps d'actionner le klaxon toutes les minutes, afin de permettre au secours de le localiser. À la fois, l'idée d'appeler à l'aide fait vaciller le peu de confiance qu'il a su maintenir. Son doigt sur le bouton, il hésite, puis sursaute en entendant le tut puissant qui résonne dans l'habitacle. Le son du klaxon ressemble à une alarme, stridulant, un ton nasal, vaguement comique. Même s'il semble se propager un peu trop en dedans, nul doute qu'on l'entendra bien en surface. Pour la première fois, François se met à imaginer globalement l'extérieur. Les secours arpentant la zone avec les sondes et les chiens. L'hélicoptère posé, les pales du rotor au ralenti prêtes à s'envoler vers l'hôpital. Ses collègues réfugiés dans la buvette avec les autres skieurs, avant de concevoir une scène d'horreur montrant tous ces gens ensevelis sous les décombres, il se rappelle qu'après l'incendie de la cuisine, il y a 2 ans, la cabane avait été reconstruite avec un mur de soutènement par avalanche aux normes. Jean-Marc, Bernard, Claudine et Maurice de la buvette, les skieurs, tous avaient des mobiles. Ils avaient dû appeler la centrale dès le déclenchement de l'avalanche. Les sauveteurs étaient sûrement déjà au courant qu'il y avait quelqu'un coincé dans leur attraque. La priorité irait au groupe, mais dès qu'on aurait sauvé les autres, vite, on se mettrait à quadriller le périmètre à sa recherche. François appuie à nouveau sur le bouton, plus longtemps cette fois, en comptant 10 secondes. Il visualise les secouristes se criant des instructions, se rassemblant vers la source du signal, commençant à creuser. Il essaye d'attendre, mais ne tient pas la minute promise avant de recommencer, emporté par l'optimisme. Incessamment, un piquet sondeur allait frapper la cabine du ratraque, suivi du raclement des pelles. Puis, il y aurait un premier contact visuel, un visage qui le regarderait avec excitation. « Par ici, les gars, c'est bon, ok ?» François ferait le signe du pouce levé pour indiquer que tout va bien.
Dans cette nouvelle, Jérémy Gindre, en attendant qu'on lui vienne en aide, François va donc brasser en lui des souvenirs. Notamment, il lui revient à l'esprit qu'il a suivi des cours de méditation, de pleine conscience, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Reste à savoir si ces techniques lui seront utiles pour rester zen jusqu'à l'arrivée des secouristes. Alors là aussi, même question que précédemment, quelle expérience scientifique que vous avez observée vous-même est à l'origine de cette transposition dans la fiction ?
Alors, il y en a plusieurs. Alors, il y a cette question de méditation pleine conscience qui a été une découverte importante et qui m'a beaucoup intéressé. Je ne pratique pas la méditation, c'est quelque chose qui me touche, mais que je peux regarder avec une certaine suspicion et en même temps une espèce d'intérêt. Et en gros, je n'ose pas le faire. Et voilà, le fait que ça passe par quelque chose de scientifique, tout à coup, j'étais...
Ça vous intimide, la mindfulness ?
Maintenant plus. Maintenant, j'adore ça. Je trouve qu'on s'endort très bien pour faire des siestes grâce aux techniques.
Je suis pas sûr que ce soit l'objectif de la technique. Hein.
Non, c'est pas l'objectif, mais c'est ce qui arrive aussi au personnage. Et voilà, donc il y avait cette question de méditation pleine conscience. Il y a eu des recherches sur les états dans lesquels pouvaient être plongés les sportifs de haut niveau, les états d'épuisement, notamment les questions d'hallucination qui peuvent survenir après un effort important. Il y avait aussi la question du sublime, ce mélange d'effroi et de beauté qui aboutit à cette fascination que moi j'ai lié là à l'avalanche, qu'on lit souvent. Enfin, l'image qu'on utilise toujours pour parler du sublime, c'est l'orage ou l'orage en montagne, tout ça. Donc l'avalanche là, c'était très pratique. Donc voilà, c'est un télescopage d'informations récoltées pendant les premiers temps de cette résidence qui ont fait que j'ai pensé à développer ça dans cette nouvelle qui était surtout basé en fait sur cette capacité de l'imagerie mentale, c'est-à-dire de notre capacité à voir des images avec notre cerveau sans utiliser les yeux. C'est des choses qu'on fait tout le temps dans l'imagination. Et là, cette personne ne voit plus que du blanc dans son ratraque, donc il est forcé de se projeter dans ses souvenirs ou à l'extérieur de la couche de neige. Mais tout ça, toutes ces images ne sont provoquées que par son cerveau.
Catherine.
C'est ça que vous appelez l'extra quotidien ?
Alors non, l'extra quotidien, c'est un débat que j'ai eu avec mes éditeurs au moment de faire le quatrième de couverture, parce qu'on a discuté de savoir là où se situaient les actions de ces nouvelles. Et à un moment, je ne sais plus qui a parlé de ce terme d'extra quotidien, parce que il s'agit pas d'explorer la banalité, parce qu'en fait la banalité m'intéresse pas vraiment, mais c'est plutôt le moment où le quotidien déborde vers quelque chose d'intéressant. La plupart du temps, c'est un accident, c'est un train raté, c'est un orage, c'est ce genre de choses qui font que tout à coup, ce qu'on avait programmé dans la journée devient autre chose. Voilà, c'est ça le...
Mais en même temps, ça c'est le propre de la littérature, le propre de toutes les histoires, de partir d'un événement spécifique, d'un quotidien banal, oui. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Donc c'est vraiment, vous avez résumé la littérature à l'extra-quotidien.
Je ne suis pas sûr, mais parce qu'il y a, y a beaucoup de choses qui sont des récits beaucoup plus épiques, d'aventures extraordinaires et de sagas familiales. Et là, il n'est pas question de ça, c'est des plus petites choses qui arrivent à des gens pas... extrêmement spéciaux, à l'exception de Mélanie Gilliot.
Il y a dans cette nouvelle, si on reste sur François, il a chaud, il a un anorak, il a à boire, mais il est en danger de mort concrètement. On n'est pas tous les jours en danger de mort, enfin quoique, je ne sais pas. Mais lui, il est vraiment en danger de mort dans son ratrac.
Il est en danger de mort, mais c'est... Voilà, ce personnage, il a ça de particulier qu'il est... Bah, il est très calme. C'est quelqu'un qui travaille dans une station de montagne. Donc, a priori, la montagne n'est pas un danger pour lui. Donc, même une avalanche, c'est quelque chose qui peut arriver. Un événement face auquel il est habitué. Donc, voilà, à un moment, il rationalisait la chose, ne lui demande pas tant d'efforts. Et il doit plutôt essayer de retenir la panique, mais gentiment, comme un chien qu'on connaît et qu'on empêche de mordre. Mais ça ne lui demande pas tant d'efforts.
Vous avez vécu vous-même une telle expérience d'être dans une situation extrêmement périlleuse qui pourrait mal tourner et devoir justement vous retourner intérieurement vers des images apaisantes telles que le fait François?
Oui, je pense que ça, bah ça peut arriver à quiconque va se promener en montagne un jour où un orage arrive, ou si on s'est trompé de chemin, ou qu'on n'a pas bien su lire la carte et qu'on n'a pas vu que c'était une via ferrata alors qu'on était en sandales, ce genre de choses. À un moment, on essaye de dompter son environnement par des visions apaisantes.
Irraisonnable, irrationnel, Catherine.
Il y a le sens de l'effort que vous avez mentionné tout à l'heure, cet effort des sportifs, cet effort ultime, aller jusqu'au bout de soi, être et ne pas faire. Il y a les deux pendant. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes ou vous êtes un fait?
Ou vous faites.
Ou vous faites.
Suis-je un fait?
Elle est tordue, ma question, je suis désolée.
Je suis surtout spectateur, en fait. J'ai pas forcément besoin d'expérimenter les choses directement, mais par contre j'ai besoin de tout voir et j'ai envie de regarder ces choses-là avec attention.
Voilà.
Trois points de suspension.
De nouveau les points de suspension.
Je pensais poursuivre cette phrase, mais en fait je pense qu'elle s'arrêtait bien là.
Bon, ben on va poursuivre avec une phrase écrite, Jérémy Gindre, si vous le voulez bien. On va continuer à feuilleter votre recueil de nouvelles intitulé « On a eu du mal » et on va écouter un passage du dernier texte qui figure dans ce recueil. Il est intitulé « Un été sans guêpes ». Catherine, dites-nous en plus.
Il y a un protagoniste principal ici qui s'appelle Sven. Sven qui est cobaye avec plein d'autres, évidemment. Il n'est pas le seul. Ils sont tous dans un hôtel, se prêtant à de nombreux exercices psychologiques et psychocognitifs. Un exemple.
La piscine est remplie de baigneurs. Ils enfilent des masques et des tubas, mais pas de palmes. Sous l'eau, on a disposé une dizaine de photocopies plastifiées. Elles sont maintenues au fond par des cailloux ramassés dans le parc. Sur chacune de ces feuilles est imprimée une liste de 40 mots, sans aucun lien. On nage, on plonge, on lit, on remonte. On recrache l'eau entrée dans le tuba. Grâce au masque, on regarde bien la chair des autres, bizarrement nette. On replonge autant qu'on veut jusqu'à avoir tout bien lu. Cette fois encore, la moitié des baigneurs ira se souvenir de la liste sur la terre ferme en compagnie de la moitié des volontaires secs, dont l'autre moitié plongera avec le restant pour noter au feutre waterproof les mots retenus tracés à la va-vite sur un bout de plastique. À cause de la fatigue, de la gêne mutuelle qui s'installe entre les volontaires lassés et des étudiants de moins en moins convaincus, ou peut-être juste à cause de l'orage qui s'annonce, l'expérience est bâclée. Les premiers coups de vent secouent dangereusement les parasols de la terrasse. Les arbres, surtout les deux peupliers du bout du parc, font un raffut qui annonce quelque chose de sérieux. On se tourne pour guetter les nuages qui sont déjà là. Des nappes se lèvent et font tomber des vers. Un chapeau de paille traverse la pelouse, reste coincé un instant dans les rosiers, puis quitte définitivement le domaine. L'air chaud amplifie encore les cris d'oiseaux. Dans la piscine, c'est un peu la panique. Les derniers volontaires qui aidaient les étudiants à remonter le matériel du fond de l'eau s'empressent de retirer leurs masques et tubas, ramassent leurs serviettes et courent se mettre à l'abri sous le kiosque. Les éclairs se déchaînent déjà au-dessus du lac. Tout le monde se précipite à l'intérieur, les bras chargés d'habits, de matériel de plongée amateur et de photocopies.
Thank you. Cédric Simon pour cette lecture de cette dernière nouvelle de votre recueil « On a eu du mal », Jérémy Gindre. Toujours cette confrontation à l'événement, ça peut être la mère. En tout cas, dans la première nouvelle, on a la mère qui se confronte systématiquement avec son petit Paul qui l'empêche d'acheter une crotte fossilisée, par exemple.
Quand vous dites la mère, c'est émeugravéreux. Hein,
oui,
la maman. Parce est dans les éléments naturels.
La maman. C'est aussi un élément naturel, la mère.
Oui.
L'avalanche ici, l'orage, tout ça, ça exacerbe les sentiments.
Oui, oui, c'est des moments particuliers. Oui.
Moments particuliers. Dans l'organisation de vos nouvelles, c'est vous qui avez choisi cette progression au sein du recueil à proprement parler.
L'ordre des nouvelles ?
Oui.
On en a beaucoup discuté. C'est mon éditrice qui a eu l'idée finale avec laquelle j'étais d'accord en fait, de commencer par une nouvelle qui se passe au Canada. Ça m'allait très bien en fait, parce que du coup ça perdait un peu les a priori qu'on aurait pu avoir sur un auteur suisse, puisqu'il y a pas mal de nouvelles après qui se passent en Suisse, et puis là voilà, ça diffuse l'espace et ça montre que voilà, qu'il va y avoir non seulement une variété de passions, mais aussi une variété d'environnements.
Dans cette dernière nouvelle que l'on vient d'entendre, il y a ces expériences de laboratoire avec des cobayes humains. Vous y avez assisté aussi?
Alors, des expériences, oui, j'ai participé à plusieurs expériences. Après, il faut revoir notre idée romantique de l'expérience. L'expérience, en général, c'est pas des gens qui subissent des électrochocs et qui, ou voilà, des choses très spectaculaires. Les expériences, c'est souvent voir quelques personnes cliquer sur des boutons de souris et répondre à des questionnaires à la main. Ou voilà, ce que j'ai pu voir de plus épatant, disons, c'est les choses en IRM fonctionnel.
Mais c'est dans cette nouvelle que vous dévoilez de la manière la plus manifeste votre projet d'écriture. Dans la mesure où vous avez assisté en effet à ce genre d'expérience, peut-être y avez-vous vous-même participé, et vous retranscrivez avec plus ou moins d'exactitude ce que vous avez vécu sur le terrain, sur la page.
Oui, c'est en tout cas celle qui est le plus proche du cadre direct de ma résidence. Ça pouvait ressembler à ça, en effet. Bien que là, de nouveau, l'exercice de la fiction force à mélanger beaucoup de choses et cette espèce de condensé d'expérience qui se fait sur une semaine, je n'ai pas assisté à ça, mais c'était aussi du coup cette université d'été, c'est une façon de réunir les choses comme sur un programme, le lundi 14h, mardi 15h, on a ça, et ça permet de former un espèce de grand sac avec plein de poches où je pouvais caser toutes les expériences dont je voulais parler, les notions dont je voulais parler. Après, il y a eu un travail pour élaguer plutôt tout ça, puisque quand on est immergé pendant un an dans une science, même si on n'y connaît rien, on finit par être initié à certaines choses. Et puis, il faut toujours se rappeler en fait, que le lecteur ne sait pas de quoi on parle et que je n'écrivais pas un livre à destination d'un public neuropsychologue, mais plutôt une espèce de forme assez vague de vulgarisation de cette science.
Mais vous faites quand même usage du jargon psychologique, de ce jargon de métier. On a l'impression que vous êtes amusé aussi à collectionner, on revient aux collections, mais à collectionner plein de mots à mettre dans vos nouvelles. C'est vrai ça ?
Oui, alors le jargon, bah, c'est important au même titre que le paysage, en fait. C'est une façon d'ancrer l'histoire dans un décor. Et je l'ai déjà fait avec d'autres sciences, avec la géologie. Moi, je lis volontiers des manuels de géologie. J'ai pas de formation de géologue. Donc, au bout d'un moment, ces mots deviennent une mélodie, à défaut de savoir exactement ce à quoi ils se rapportent. Mais il y a des notions qui sont beaucoup revenus au cours de cette résidence et qui m'ont touché, donc que j'avais besoin de replacer là-dedans, des mots qui sont quand on ne les rapporte pas à leur réalité scientifique, évoquent aussi des choses assez formidables.
Ces mots prennent une dimension poétique, et là je m'adresse à l'écrivain que vous êtes.
Bah oui, quand on parle de méditation pleine conscience, c'est beau, ça fait rêver.
Ça vous fait rêver?
Oui.
Même s'il s'endort systématiquement. Je compatis, hein, j'ai compati aussi à François, parce que je fais exactement la même chose chaque fois que j'essaie de méditer, je m'endors.
Oui, mais vous êtes rarement coincé dans un ratraque.
Ça, c'est vrai. Ça.
La situation est moins dramatique.
Moins dramatique. Il y a l'idée des énigmes, et je vais vous citer Jérémy Gindre, « Les mystères de ce monde dissimulent les réponses, ce monde est plein d'énigmes. » C'est une phrase de vous, vous êtes toujours d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord avec cette phrase qui a été écrite déjà de façon un peu tordue, puisque c'est une traduction approximative que j'ai faite d'un autre auteur. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de phrase que j'apprécie, mais que je ne peux pas revendiquer directement, puisqu'elle est piquée à d'autres. Mais c'est en effet, comment dire, c'est quelque chose qui est important dans mon écriture aussi, la question de la traduction, la question du, le phrasé qu'on peut avoir dans les formulaires touristiques mal traduits, ou dans les catalogues de vente par correspondance, ou dans des journaux à grand tirage comme le Coopération, il ne faudrait pas le citer, tout ce genre de formulation un peu approximative, qui n'est souvent d'erreur de traduction, font que ce sont des phrases assez chantantes et que j'aime me réapproprier.
Je me suis laissé dire que vous aviez un goût tout particulier pour les anciens guides de voyage. Vous en faites aussi de la poésie ensuite ?
Alors, c'est pas particulièrement les anciens guides de voyage, c'est tous les guides de voyage. Moi, j'aime beaucoup les récits de découverte, mais c'est lié à cette, comment dire, à cette période-là, en particulier, je pense que vous évoquez peut-être les journaux de Lewis et Clark ou les journaux de voyage de William Bartram qui sont liés à la découverte de l'Amérique, où en effet, il y a quelque chose d'assez enivrant comme ça. Mais je pense que les guides contemporains, en particulier des dépliants touristiques, ce genre de choses, ont la même, en tout cas, ont pour moi la même influence.
Merci Jérémy Gindre de nous avoir emmenés à l'intersection des sciences cognitives, on en sait un peu plus dans ce domaine maintenant, et de la littérature. Vous êtes l'auteur d'un recueil de 5 nouvelles intitulé « On a eu du mal », publié aux éditions de l'Olivier en quelques secondes. On a eu du mal, pourquoi ?
On a eu du mal parce que c'est, ça montre une difficulté mais qui n'est pas insurmontable.
Ai-je bien fait de l'entendre, comme je le disais en début d'émission, avec l'accent ? J'ai l'impression que c'est une expression typiquement de chez nous.
Choisissez votre accent.
Très bien, je le garde pour moi. Entre les lignes, vous était proposé par Catherine Fadber et Jean-Marie Félix. Lecture, Cédric Simon. Diffusion en régie, Sacha Unger. Assistance à la production, Madeleine Teuchère. Merci à tous, merci à toutes. Cet entretien, comme tous ceux qui précèdent, reste à votre disposition pour un téléchargement, une réécoute en ligne. Pour cela, vous passez par notre page internet. L'adresse, vous la connaissez, rts.ch/entre-les-lignes. Puis je vous retrouve volontiers demain jeudi. William Irigoyen vous proposera un entretien avec Nancy Houston, auteur d'un roman paru en cette rentrée littéraire chez Actes Sud. Son titre, Danse Noire. Après le Flash Info, ce sera Magma, votre magazine des musiques actuelles. Vous écoutez RTS Espace 2, il est très exactement midi.